Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur la période holocène. Cette semaine, je vais encore vous parler de l'évolution du niveau de la mer pendant cette période, mais en mentionnant en particulier des événements singuliers qui ont eu lieu lors de l'Holocène. La semaine dernière, vous avez précisé un petit peu les différentes reconstitutions du niveau de la mer pendant cette période, les derniers 12 000 ans avant le présent. Et en particulier, je vous ai signalé la difficulté, à partir de toutes ces données, de tous ces enregistrements du niveau marin obtenus localement, de ensuite faire une moyenne à l'échelle mondiale pour essayer d'estimer, finalement, l'évolution du niveau de la mer, qui est directement liée au volume d'eau de l'océan, essentiellement liée à la fonte des grandes calottes de glace qui étaient présentes pendant la glaciation. Pendant la dernière glaciation. Donc ici, encore une fois, une planche que j'ai déjà montrée lors du dernier cours, qui résume un petit peu les choses, qui montre en fait les différentes estimations, qui compile les différentes informations de façon assez complexe, parce qu'il faut tenir compte de la modélisation et de la déformation de la Terre au cours de cette période post-glaciaire. Donc il y a plusieurs reconstitutions, mais qui donnent finalement le même message, une évolution du niveau de la mer depuis 12 000 ans, qui part d'un niveau assez bas. On était à peu près à mi-chemin de cette déglaciation mondiale vers moins 50, moins 60 mètres et une évolution pendant la première moitié de la période holocène jusqu'à pratiquement 6000 ans, une évolution assez rapide avec des estimations qui sont au premier ordre en accord, mais si l'on regarde un peu les détails, on voit finalement une dispersion de ces reconstitutions, ici pratiquement une vingtaine de mètres, ce qui représente quand même trois fois la masse du Groenland au point de vue masse d'eau. Donc ces désaccords, encore une fois, qui existent à l'heure actuelle entre ces différentes reconstitutions sont à la fois montrent en fait qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour essayer d'estimer au mieux les fluctuations eustatiques pendant cette période, et surtout une constante de toutes ces reconstitutions, le fait que pendant la première moitié de cette période holocène, eh bien, le niveau de la mer était en moyenne beaucoup plus bas que l'actuel. Alors une autre, je vous ai signalé aussi le fait que, et on le voit très bien justement sur cette compilation, sur cette planche de conclusion que je vous ai montrée la semaine dernière, on voit essentiellement que pour les derniers 6000 ans, il n'y a pas accord parfait entre les différentes reconstitutions, en particulier certaines montrent que le niveau de la mer était atteint à partir de 6000 ans, alors que d'autres présentent, il faudrait faire un zoom ici, un niveau de la mer qui était effectivement plus bas, de plusieurs mètres, ce qui est tout à fait significatif, donc une fonte apparemment pour certains auteurs des calottes de glace existantes à l'époque, c'est-à-dire pour la deuxième partie, la deuxième moitié de la période holocène, il faut avoir en tête qu'il n'y avait plus que les calottes de glace actuelles, c'est-à-dire le Groenland et surtout l'Antarctique avec sa masse, et que donc cette évolution du niveau marin de plusieurs mètres pendant la période holocène, elle est peut-être, probablement, liée à une fonte partielle de l'Antarctique, en particulier de l'Antarctique de l'Ouest. Donc encore des désaccords, certains pensent qu'il y a effectivement un niveau de la mer qui était atteint à 6000 ans, un niveau marin actuel qui était atteint il y a 6000 ans, alors que d'autres pensent, enfin, à partir des mêmes outils, des mêmes données de base, les reconstitutions locales de niveau de la mer et de la modélisation géophysique, une convergence, mais encore une fois, des désaccords aussi sur certains aspects qui sont tout à fait significatifs. Alors, donc cette semaine, j'ai décidé de vous parler plus précisément de certaines conséquences régionales et locales qui sont tout à fait intéressantes et qui ont des répercussions importantes à la fois en climatologie et aussi sur les sociétés, les premières sociétés, les premières populations humaines, comme nous le verrons. Alors, il faut imaginer effectivement que pendant cette première moitié de la période de l'Holocène, eh bien, il y avait encore des calottes résiduelles qui étaient situées essentiellement sur le continent nord-américain, cette fameuse calotte de la Laurentide. Ici, vous avez une vue qui représente de façon imagée la situation, l'épaisseur et l'extension en fait, de cette calotte de la Laurentide il y a à peu près 13 000 ans, c'est-à-dire un millénaire avant le début de l'Holocène, qui débute, comme on l'a vu, il y a 11 600 ans avant le présent. Donc on a une calotte de glace qui était beaucoup moins importante au point de vue volume, pratiquement elle était réduite de moitié à cette période. On voit aussi essentiellement qu'il y avait un corridor qui est apparu entre la calotte résiduelle laurentide et la calotte de la cordillère nord-américaine. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à cette période intermédiaire de retrait significatif de cette calotte laurentide, il y avait formation par de lacs proglaciaires au sud de la calotte, en particulier un énorme lac, comme on le verra par la suite, qui est baptisé le lac Agassiz, du nom d'un chercheur pionnier en glaciologie. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que l'eau de fonte qui provient de cette fonte progressive de la calotte laurentide au cours de l'Holocène, en tout cas à partir de cette situation résiduelle, eh bien, elle va avoir plusieurs exutoires, soit vers l'est, soit vers l'ouest, soit vers le sud aussi. Et c'est l'impact en fait climatique que l'on va pouvoir considérer de cette fonte généralisée des grandes calottes de glace de la période glaciaire va dépendre justement de la localisation et de la rapidité de ces fontes et de ces mécanismes en fait de vidange de certains lacs proglaciaires. Donc une situation il y a 13 000 ans, ce qu'on peut voir aussi sur ce diagramme, eh bien, c'est qu'il y avait possibilité de passer à pied sec au niveau du détroit de Bering. Le niveau de la mer était encore beaucoup plus bas que le niveau actuel, entre 50 et 60 mètres comme on l'a vu. Et donc on va voir que les détroits de Bering, en particulier pendant la glaciation, étaient tout à fait exondés. C'était un pont terrestre, qu'on appelle le pont terrestre de la Béringie, cette zone géographique. Ici vous avez une reconstitution qui présente en fait la Béringie, cette zone, pendant la glaciation, il y a 20 000 ans avant le présent, et de nombreux carottages ont été réalisés en mer en particulier, dans cette zone du détroit de Bering actuel. Encore une fois, cette cartographie ici sur la droite présente en fait la situation actuelle avec une impossibilité de passer à pied sec depuis la Sibérie jusqu'à l'Alaska avec ce détroit de Bering, passage d'eau entre le bassin arctique et le Pacifique Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, ce détroit de Bering, il a à peu près une cinquantaine de mètres de profondeur. Alors, il est assez complexe quand on regarde les détails, mais un peu plus de 50 ici, un peu moins de 50 sur d'autres seuils. Mais les datations, en fait, à partir de ces informations des différents carottages qui ont été réalisés et de nombreuses autres études de la littérature, montrent qu'en fait, l'ouverture du détroit de Bering date à peu près d'il y a 11 000 ans avant le présent, c'est-à-dire au tout début de l'Holocène. On est pratiquement 600 ans après le début de l'Holocène. Alors ces datations qui ont été réalisées dans des carottages où on peut suivre en faisant la stratigraphie précise et avec des datations précises, on peut suivre effectivement la zone de transition entre une sédimentation terrestre et une sédimentation marine. Eh bien, ces différents travaux ont été compilés par des auteurs, en particulier l'étude là, que je viens de reprendre, par Jacobson, qui compile en fait différentes données, à la fois les données nouvelles qu'ils ont pu réaliser, qui montrent en fait un passage, une ouverture du détroit de Bering vers 11 000 ans avant le présent, d'autres données qui prédatent, qui sont des données de sédimentation terrestre qui, logiquement, doivent prédater cette formation du détroit de Bering, et d'autres informations, en particulier de la littérature, notamment des datations sur des mollusques qui étaient présents uniquement dans le Pacifique Nord et que l'on a retrouvé après l'ouverture du détroit de Bering jusque dans l'Arctique canadien. Alors là, il y a certains désaccords justement apparents. Il y a certains travaux qui ont été publiés qui montrent en fait que l'apparition de ces mollusques nord-pacifiques jusque dans l'Arctique canadiens, bon, sont des espèces précises, on ne va pas rentrer dans les détails, on pourrait, mais seraient datées de 13 000 ans, ce qui, pour certains auteurs, montrerait en fait que le détroit de Bering était ouvert, au moins partiellement, enfin, avec une tranche d'eau suffisante pour qu'il y ait passage, au moins de larves de ces mollusques en particulier, qui expliquerait la présence assez rapide, assez précoce, de ces mollusques dans l'Arctique canadien, alors qu'ils étaient pendant la glaciation, uniquement restreint au Pacifique Nord. Donc ce diagramme compile un petit peu les choses, montre en fait que selon cette dernière étude, la datation, je dirais, la plus fiable de cette ouverture du détroit de Bering, c'est plutôt 11 000, mais il y a des données qui montrent un peu d'incertitude, ou au moins qui signalent une certaine complexité de la chose. Alors il est intéressant de représenter de façon très basique le détroit de Bering avec sa profondeur actuelle, un peu plus de 50 mètres, sur une courbe de niveau de la mer générale. Alors je vous ai montré les différentes reconstitutions qui existent, qui ne sont pas forcément en accord. Il est aussi intéressant de prendre une courbe, une des courbes les plus importantes et les mieux documentées, et en particulier celle que nous avons reconstituée pour les niveaux post-glaciaires de Tahiti, qui est représentée sur ce diagramme en fonction du temps, depuis 20 000 ans, la période glaciaire où le niveau de la mer était à peu près à 120 mètres plus bas que l'actuel, jusqu'à la période actuelle, zéro, en passant par le début de l'Holocène, vers 11 600 ans. Donc on retrouve encore une fois le fait que pendant la première moitié de la période de l'Holocène, le niveau de la mer était beaucoup plus bas, mais il est intéressant de placer la bathymétrie du détroit de Bering actuel, un peu plus de 50 mètres, moins 50 mètres, et de voir qu'en fait ces données sont tout à fait compatibles avec la courbe de Tahiti. On retrouve ici que l'ouverture du détroit de Bering est prévue avec ces courbes de niveau de la mer vers 11 000 ans avant le présent. C'est effectivement compatible avec ces données, mais par contre pas compatible, incompatible avec apparemment ces données qui montreraient une ouverture beaucoup plus précoce, ou au moins un passage entre le Pacifique Nord et l'Arctique beaucoup plus précoce, vers 13 000 ans. Vers 13 000 ans, quand on reprend juste la courbe de Tahiti, le niveau de la mer était bien plus bas, et donc bien plus bas que le détroit de Bering. Ici, on est à moins 70 mètres, donc avec une totale impossibilité de passage entre les deux bassins. Alors, les choses sont assez compliquées lorsqu'on regarde les détails, en particulier si l'on prend plusieurs courbes du niveau de la mer, les courbes les plus complètes sur le niveau de la mer régional. Ici, je vous ai représenté, tiré d'un travail encore plus récent, une comparaison entre l'évolution du niveau de la mer pour une fenêtre temporelle entre 14 000 et 9 000 ans avant le présent. Donc là, il s'agit d'un zoom par rapport au diagramme précédent. Ici, les choses évoluent entre moins 30 mètres, moins 30 mètres jusqu'à moins 80 mètres par rapport au niveau actuel, plus bas que le niveau actuel. Ce qui est représenté, en fait, sont encore une fois les données obtenues à Tahiti, ce sont les données qui sont représentées en rouge. Bon, il faut imaginer que chaque point représente dans des carottages des coraux qui ont été datés avec des méthodes particulières de l'uranium-thorium qui permet d'avoir des âges justes et précis. Et ce que j'ai représenté en plus sur ce diagramme, ce sont d'autres données obtenues dans les Caraïbes pour l'île de la Barbade. Alors, c'est des travaux essentiellement réalisés par des collègues américains, mais nous y avons aussi participé avec des datations uranium-thorium sur les coraux de la Barbade. Et globalement, à l'heure actuelle, il y a une petite controverse, je dirais, sur l'évolution, en particulier au tout début de l'Holocène, pour la Barbade, qui semble indiquer, en fait, une accélération du niveau de la mer. Hein, quand on reprend les données de la Barbade qui sont représentées ici en vert, donc ce sont les carrés verts, on voit une évolution qui est parallèle, qui est équivalente au point pour Tahiti, mais ici une accélération vers 11 300, 11 200 ans avant le présent, donc tout à fait au début de l'Holocène. Cette accélération, en fait, avec une évolution du niveau de la mer qui présente une marche, elle est appelée dans la littérature le Meltwater Pulse 1B. Peu importe, ce qu'il faut remarquer, c'est que les choses, si l'on prend en compte ces données de la Barbade telles qu'elles ont été publiées jusqu'alors, on serait obligé d'avancer cette ouverture du détroit de Bering en considérant uniquement ces données, avec, encore une fois, la bathymétrie actuelle du détroit de Bering. On verrait que si l'on suit uniquement la courbe de la Barbade, ça vieillirait un petit peu, de quelques siècles, cette ouverture du détroit de Bering avec les pointillés que j'indique ici. Donc on est à moins 50 mètres, à peu près vers 11 300 ans avant le présent, ce qui est un peu plus vieux que ce que l'on a directement à partir des données de Tahiti. Alors ce qui est, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a aussi une controverse en fait sur la validité des données et en particulier de certaines corrections. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur ce que nous avons réalisé pour reconstituer les niveaux de la mer à la fois à Tahiti et à la Barbade, mais il y a une certaine incertitude en fait sur les données de la Barbade qui sont liées au fait que la Barbade est située dans une zone tectoniquement active et on est obligé de faire des corrections liées à la tectonique, au taux de surexion de l'île de la Barbade. Et donc, suivant le taux de correction qui est appliqué dans les calculs, on pourrait très bien tomber sur les données de la Barbade corrigées avec un autre facteur correctif qui, elle, serait totalement en accord, ce sont les triangles bleus, totalement en accord avec les données de Tahiti qui redonnerait, dans ce cas-là, effectivement, une ouverture du détroit de Bering vers 11 000 ans. Donc, encore une fois, une petite incertitude, entre 11 300 et 11 000 ans pour cette ouverture du détroit de Bering, mais en tout cas, en tout état de cause, pas 13 000 ans et absolument pas de possibilité au-delà de 13 000 ans. Alors, comme nous l'avons vu la semaine dernière, je vous ai montré en fait que l'évolution du niveau de la mer, eh bien, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'on peut effectivement reconstituer une évolution du niveau marin à partir de carottage pour certaines zones géographiques, mais que encore, si l'on veut ensuite considérer et comparer les différentes courbes de niveau de la mer les unes avec les autres, il faut en fait tenir compte du fait que la Terre s'est remise en forme. C'est ce qu'on appelle le réajustement glacio-hydro-isostatique, dont il faut tenir compte avec des modélisations. Alors, c'est ce qui a été fait justement au niveau du détroit de Bering par un groupe qui est spécialisé justement dans la modélisation de ce réajustement post-glaciaire. Donc, je vous montre justement tirée d'un travail très récent, des essais de modélisation pour la période qui nous intéresse, pour la petite fenêtre temporelle entre 14 000 et 10 000 ans avant le présent. Donc là, il s'agit d'un zoom. Alors, le diagramme est inversé au point de vue direction de la flèche temporelle. Ici, ça va de droite à gauche. 14 000 ans jusqu'à 10 500 ans ici. Et la bathymétrie est indiquée ici avec, encore une fois, la profondeur actuelle du détroit de Bering vers moins 53 mètres. Donc, ce que les reconstitutions qui tiennent compte à la fois de toutes les courbes de niveau de la mer reconstituées pour tous les différents traits de côte et la géométrie des calottes de glace pour en tenir compte dans les calculs de rebond isostatique post-glaciaire, eh bien, il est possible pour ce détroit de Bering de faire des calculs de ce que devrait être, en tenant compte de ce réajustement de la forme de la Terre dans cette zone, ce que devrait être l'évolution du niveau de la mer. Donc c'est essentiellement la courbe noire qu'il faut regarder ici, qui représente l'évolution du niveau de la mer simulée en tenant compte des données en fonction du temps, et une des constatations des auteurs et de la modélisation, c'est qu'apparemment, le niveau de la mer aurait été quasi stable en fait, pendant pratiquement un millénaire autour justement de cette période du début de l'Holocène, avant le début de l'Holocène, entre 13 000 ans et l'actuel, avec si l'on compare justement avec la bathymétrie actuelle du détroit de Bering, moins 53 mètres, avec une tranche d'eau qui était finalement très très faible. Ici, on est entre 13 000 ans et 11 500 ans avant le présent, on est avec un tirant d'eau de quelques mètres seulement. Et en plus, il faudrait tenir compte aussi du fait qu'il y a d'autres seuils un tout petit peu plus élevés au niveau de ce passage entre le Pacifique Nord et la zone arctique. Donc on a finalement une explication possible en fait du fait qu'il y a certaines évidences un peu précoces vers 13 000 ans avant le présent qui sont représentées ici de façon résumée. Le tirant d'eau était très faible, donc de quelques mètres visiblement au-dessus du détroit de Bering. Donc le détroit de Bering, encore une fois, aurait été ouvert au sens strict du terme, mais avec un tirant d'eau juste suffisant pour avoir quelques échanges, peut-être permettant à des larves des mollusques qui ont été trouvés il y a 13 500 ans dans la zone arctique canadienne, mais tout à fait insuffisant pour avoir un développement des échanges de masse d'eau, comme nous les connaissons actuellement, nous y reviendrons, entre le Pacifique Nord et la zone arctique. Alors, Mais alors, une des conclusions aussi de cette modélisation, c'est qu'il faut attendre en fait 11 500 ans et pratiquement 11 000 ans avant le présent. Donc là, c'est compatible totalement avec, avec les reconstitutions directes en considérant le niveau de la mer de façon simplifiée, pour qu'il y ait un tirant d'eau vraiment important d'une dizaine de mètres au niveau du détroit de Bering, il faut attendre 11 000 ans avant le présent. Une compatibilité, une explication apparemment possible de la dispersion des âges pour les différentes indications sur cette ouverture du détroit de Bering. Alors il faut dire aussi, certaines indications ici, les points jaunes en fait, représentent justement les datations qui ont été obtenues sur ces fameux mollusques nord-pacifiques qui ont été trouvés en zone arctique de façon très précoce, vers 13 500 ans. Ici, j'ai repris juste une photo de ces mollusques très particuliers. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les datations qui ont été réalisées sur ces mollusques ont été faites avec une technique, le carbone 14. Une des difficultés de l'utilisation du carbone 14 sur des objets ou sur des fossiles marins, c'est qu'il faut corriger en fait d'un effet réservoir. Ce sont des détails qui sont importants. Je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais la chose qui me paraît importante, c'est que les auteurs responsables de cette étude, qui trouvent une datation très précoce, 13 500 jusqu'à 13 000, ont complètement oublié de tenir compte du fait que l'âge réservoir dans cette zone était très probablement beaucoup plus important pendant la période post-glaciaire que pour l'actuelle. Les corrections qui ont été effectuées ne tiennent pas compte de cet effet, et donc très probablement, en fait, ils ont oublié de corriger de pratiquement 500, enfin, au moins un demi-millénaire, voire un millénaire. Il faudrait bouger, en fait, ces points vers la gauche de pratiquement 500 à 1000 ans, ce qui les rendrait totalement compatibles avec à la fois la modélisation et les données que l'on a obtenues sur d'autres considérations sur le niveau marin. Voilà, c'est de la science qui est effectivement en train de se faire avec des corrections qui probablement vont intervenir dans les prochaines années. Alors, l'importance en fait de cette ouverture du détroit de Bering, on la reverra lorsqu'on considérera aussi les impacts sur les populations humaines, mais il faut aussi mentionner le fait que cette ouverture a aussi un impact important, comme on va le voir, sur les transports et les échanges d'eau entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique. Ici, vous avez une vue en fait, qui récapitule le bilan moderne des transports d'eau de l'océan Arctique. Alors, toutes les flèches qui représentent justement pour l'actuel les différents flux, soit les flux entrants, soit les flux sortants. Il y a des flux sortants de la zone arctique. Tous ces flux sont exprimés en millions de mètres cubes par seconde, donc en sphère-drop. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une compensation entre les flux entrants et les flux sortants, mais qu'à l'heure actuelle, il y a pratiquement 0,6 millions de mètres cubes par seconde qui entrent au niveau, qui passent par du Pacifique vers la zone arctique. Donc c'est de l'eau qui est assez peu salé et qui envahit en permanence l'océan Arctique et qui a donc une conséquence en fait sur le bilan hydrique et en particulier les salinités de la zone Arctique et donc par voie de conséquence aussi sur la salinité et les bilans hydriques au niveau de l'Atlantique Nord parce que comme vous le voyez sur ce diagramme on voit très nettement que au moins pour l'actuel il y a des échanges très importants 5 millions de mètres cubes par seconde dans un sens compensé par 5 millions dans l'autre sens. Ce sont donc ces différentes flèches rouges qui récapitulent les échanges liés aux courants de surface et aux échanges entre les différents bassins. Les flèches bleues en fait, représentent aussi des courants profonds, exprimés aussi en millions de mètres cubes par seconde. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que cette zone de l'Atlantique Nord est aussi une zone très importante au point de vue de la convection, des échanges entre la surface de l'océan et les zones beaucoup plus profondes. Il y a en fait des zones de convection qui sont en fait importantes au niveau climatique à l'échelle mondiale. En fait, les différents bassins océaniques sont interconnectés les uns aux autres, en particulier par cette, ce que l'on appelle de façon commune la circulation thermohaline globale, qui est représentée de façon très imagée par un tapis roulant avec des flux de surface et des flux en profondeur, en particulier en Atlantique. Sur ce diagramme, une vue beaucoup plus exacte, enfin plus exacte et donc plus complexe, vous est représentée ici. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en permanence donc une plongée d'eau profonde en Atlantique Nord, avec est liée à une advection de masse d'eau. Alors là, quand on parle de masse d'eau, il s'agit de flux qui sont très importants. On parle d'une quinzaine de millions de mètres cubes par seconde qui, en permanence, vont être amenés vers le nord. Donc il s'agit d'eau relativement chaude et salée vers le nord et qui va ensuite plonger, essentiellement liée à des phénomènes de refroidissement, donc plonger en profondeur et alimenter l'océan profond. Donc c'est une chaîne qui, en plus, a des conséquences importantes au point de vue climatique, parce qu'en même temps qu'il y a apport d'eau relativement salée des tropiques vers la zone nord-atlantique, il y a un transport de chaleur qui correspond à 1 pétawatt en permanence, donc 10 puissance 15 watts en permanence, transporté par ces masses d'eau actuellement. Donc on a bien conscience que si on perturbe la salinité et les bilans hydriques en fait en Atlantique Nord, en particulier s'il y a un apport d'eau douce ou d'eau moins salée, en particulier par les échanges entre le Pacifique, la zone arctique et la zone arctique et l'Atlantique Nord, eh bien ça va avoir des conséquences sur cette circulation thermohaline. Et en particulier, il est quasi certain que le flux d'eau du Pacifique via l'Arctique il a probablement en fait freiné, il a agi comme un frein sur cette circulation thermohaline qui est très sensible au flux d'eau peu salée, parce que effectivement, pour qu'il y ait convection profonde, il faut que la densité soit suffisamment importante. Donc dès que l'on diminue la salinité des masses d'eau dans cette zone, il va y avoir sa tendance plutôt à freiner et à diminuer les taux de convection. Alors ce sont des choses qui peuvent se modéliser. C'est effectivement ce qui a été fait par certains chercheurs, modélisateurs, qui ont utilisé des modèles couplés océan-atmosphère et qui ont, de façon artificielle dans le calcul, fermé ou ouvert le détroit de Bering et qui ont pu justement calculer l'effet, en tout cas prévu par la modélisation, de l'effet climatique sur les températures de surface atmosphérique liées à cette ouverture ou fermeture du détroit de Bering. Alors là, le calcul est un peu malheureux. Cette planche, en fait, représente une anomalie de température pour la situation fermée, avec un détroit de Bering fermé, moins la cartographie des mêmes températures pour un détroit de Bering ouvert. Donc en fait, il faudrait inverser complètement tout le diagramme, faire la différence dans l'autre sens, mais ce qui explique en fait que ce qu'on en attend là, pour l'ouverture du détroit de Bering, eh bien, c'est effectivement un refroidissement, mais quand on fait le calcul dans ce sens, fermé moins ouvert, eh bien, on va trouver un réchauffement. Donc en fait, il faudrait inverser l'échelle de ce diagramme, mais toujours est-il que le calcul montre bien qu'en ouvrant ce détroit de Bering, eh bien, on a tendance à refroidir à cause justement de cet impact de la salinité de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. Donc on a et cette bulle, je dirais, d'anomalie de température froide, si l'on fait le calcul dans le bon sens, eh bien, elle se répercute non seulement sur l'océan Atlantique, mais aussi sur les continents entourants. En particulier, on voit très nettement une anomalie de température qui se propage sur le Groenland, sur l'Amérique du Nord-Est et pratiquement sur toute la zone européenne. Donc une conséquence uniquement liée au détroit de Bering qui peut avoir des répercussions à l'échelle mondiale, même si il s'agit que d'un détail, finalement, d'une situation liée au niveau de la mer pendant la déglaciation qui a lieu, effectivement, de l'autre côté de la Terre, au niveau du passage entre le Nord-Pacifique et l'Arctique. Alors, il y a, encore une fois, beaucoup de reconstitution. Je n'ai pas le temps de vous montrer tous les détails en fait, des reconstitutions à terre, géomorphologiques, qui permettent en fait, de reconstituer la géométrie et l'évolution et la retraite en fait, post-glaciaire de la calotte Laurentide, en particulier, sur le continent nord-américain. Essentiellement, ce sont des données géomorphologiques, ou en particulier les datations des différentes moraines, des différents dépôts de moraines. Et grâce à ces datations et à ces considérations de cartographie géologique et de géomorphologie, les chercheurs ont pu cartographier l'extension pour différentes périodes temporelles avec des datations en particulier liées au carbone 14. Il est possible en fait, de reconstituer l'extension de cette calotte Laurentide au cours du temps pour 17 000 ans, 12 800 ans avant maintenant, le début de l'Holocène. Cette cartographie vous montre la situation il y a 11 700 ans, donc tout à fait au début de l'Holocène, pour une situation encore plus tardive, vers 8 600 ans avant le présent, que nous considérerons un peu plus avant dans le cours que nous verrons par la suite. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'évidences en fait, géologiques, géomorphologiques, bien datées, bien reconstituées, de la présence au sud en fait, de la calotte Laurentide, je vous en ai déjà parlé, d'un grand lac proglaciaire, le lac Agassi, qui a évolué, dont le volume était très important. Et les chercheurs ont pu, géomorphologues et géochronologues, ont pu reconstituer l'extension de ce lac et en particulier les vidanges successives. Et bon, de façon assez résumée sur ce diagramme, je dirais simplifié, tiré d'une étude spécialisée justement sur ces passages au niveau de l'Arctique, au niveau de la rivière Mackenzie. Ici, le MR représente en fait la rivière Mackenzie au nord du Canada. Il y a des évidences bien datées du fait qu'il y a eu une vidange, un flux massif d'eau douce depuis le lac Agassi via la rivière Mackenzie jusqu'à l'océan Arctique, donc de l'eau douce, là, carrément. Il ne s'agit pas d'une eau dessalée comme le Pacifique Nord vers la zone de l'Atlantique, mais là, il s'agit carrément d'eau douce. Et donc, ça a eu un impact à la fois sur la formation de glace de mer, de banquise, mais aussi sur les zones de convection qui sont situées ici, en Atlantique Nord. Donc on s'attend à avoir, à cause de cet événement qui est relativement bien daté vers 11 300 ans, un impact aussi sur cette fameuse circulation thermohaline dont je vous ai montré l'importance à l'échelle mondiale. Alors il y a d'autres données plus tard, qui ont permis en fait, de reconstituer d'autres épisodes de drainage. En particulier, il y a eu un épisode de drainage abrupt et massif de la calotte Laurentide résiduelle, et donc du lac Agassi, vers, il y a à peu près entre 8500 et 8200 ans avant le présent, et qui est, bon, il y a beaucoup de littérature sur ce sujet, qui débute dans les années, fin des années 90, 2000 et autres, mais il y a des débats encore, je dirais, sur certains détails, mais il y a effectivement un consensus sur le fait que la calotte résiduelle a perdu de la masse, la calotte Laurentide résiduelle a perdu une très grande partie de sa masse de façon quasiment instantanée au niveau géologique, c'est-à-dire en une année ou quelques années, voire moins, une partie de sa masse à la suite d'un épisode tout à fait particulier qui est résumé un petit peu sur ces différents diagrammes. Ici, vous avez une situation de la calotte Laurentide résiduelle il y a à peu près 9000 ans, avec, encore une fois, des dômes qui existaient sur différentes zones géographiques. Ici, vous reconnaissez le Groenland, la mer du Labrador est ici. Au sud, le lac Agassi, le lac Ojibwe. Et à cette époque, juste avant cet épisode important, il faut imaginer que le lac Agassi était pratiquement à plus de 200 mètres, de 200-250 mètres, au-dessus du niveau de la mer actuelle. Et ce qui a eu des conséquences aussi en hydrologie et en glaciologie, ça a été en particulier étudié par un glaciologue nord-américain, canadien, Gary Clark, de Vancouver, qui a montré en fait que, bon, très probablement, ce qui s'est passé, pour expliquer justement le caractère quasiment instantané de cette débâcle d'une grande partie de la calotte résiduelle, eh bien, c'est que l'eau du lac Agassiz a pu carrément pénétrer sous la calotte en creusant des tunnels et en s'engouffrant en fait sous la calotte Laurentide résiduelle. Donc ici vous avez un diagramme de principe, mais globalement une hauteur d'eau importante entre le niveau de la mer dans la baie d'Hudson et le lac Agassiz, et une lubrification à cause de l'eau douce en fait qui aurait pénétré sous la calotte résiduelle, qui aurait pu partir de façon quasi instantanée, en tout cas au niveau géologique, vers la baie d'Hudson. Donc il faut imaginer des grandes masses de gaz qui ont donc ensuite fondu dans la mer du Labrador et en Atlantique Nord, et donc elles ont eu un impact forcément sur cette fameuse circulation thermohaline qui a elle-même une importance au point de vue climatique au niveau mondial. Alors il est intéressant de regarder, donc on prévoit, on l'a vu, on prévoit avec la modélisation que cet impact va avoir aussi des répercussions sur les températures sur les continents environnants, en particulier au niveau du Groenland. Donc il est intéressant de reprendre notamment un des diagrammes que je vous avais montré sur les reconstitutions les plus récentes des changements de température au Groenland à partir des carottes de glace du sommet du Groenland. Ici, vous avez un diagramme que j'avais déjà montré qui représente les anomalies de température depuis 12 000 ans, donc le début de l'Holocène, avec à haute résolution à partir des isotopes de l'argon et de l'azote, et à partir aussi avec d'un autre thermomètre historique, mais qui est moins fiable que ces isotopes de l'argon et de l'azote, qui est le rapport 18 eaux sur 16 eaux de la glace, avec des fluctuations, notamment des fluctuations de température tout à fait significatives. On pourrait déplier l'enregistrement pour montrer qu'il y a beaucoup de données dans ces enregistrements, avec des oscillations qu'on appelle les oscillations préboréales. Ici, il y en a deux, il y en a une ici, une autre là, vers 11 300, qui pourraient correspondre justement aux événements que l'on a vus, à la fois l'événement de vidange vers l'Arctique à 11 300 ans. On a vu aussi que c'est aussi la période 11 000 ans ou un peu plus. C'est aussi la période d'ouverture du détroit de Bering, donc on a plusieurs évidences aussi de changements pendant cette période, mais on voit aussi surtout un effet probable vers 8200 ans avant le présent et peut-être aussi un peu avant de l'impact probable de la débâcle finale de cette calotte Laurentide avec cet événement tout à fait singulier de débâcle de la calotte résiduelle. Donc que l'on va revoir et qui probablement explique ces changements de température relativement abrupts qui durent que quelques siècles sur ce diagramme. Alors il est intéressant d'aller voir aussi en Atlantique l'impact de cet événement qui est baptisé de façon pas très poétique, c'est l'événement pour les scientifiques, c'est l'événement du 8.2K. Donc cet événement froid de 8.2K, il a été regardé, il a été considéré et étudié dans des enregistrements, en particulier en Atlantique Nord. Ici, c'est une compilation qui vous présente différents enregistrements entre 9000 ans et 7000 ans avant le présent. Donc il s'agit d'un zoom d'une fenêtre temporelle relativement brève, avec plusieurs enregistrements. Donc on retrouve ici les enregistrements de la température au Groenland, avec un refroidissement assez conséquent, ici de plusieurs degrés Celsius dans l'enregistrement de température, des températures obtenues pour l'Atlantique Nord avec des baisses de température qui correspondent à cette période. Alors il y a des fluctuations un peu avant, mais on a vu qu'il y avait une autre oscillation aussi, et bon, encore une fois, la datation exacte du phénomène est encore assez incertaine. Et surtout, c'est ça qui est important dans ce diagramme, c'est non seulement le fait qu'il y a une réponse à la fois des températures de surface et des températures de subsurface en profondeur atlantique, mais il y a aussi une réponse directe de la circulation profonde atlantique que l'on peut étudier dans les mêmes enregistrements, dans les sédiments. Là, il s'agit de données qui ont été établies dans les sédiments marins, à partir, comme indicateur pour la circulation profonde, à partir d'un rapport isotopique, le rapport carbone 13 sur carbone 12, mesuré dans les foraminifères benthiques de carottes marines qui ont été récupérées au niveau de l'Atlantique Nord. Donc on voit une énorme anomalie du delta C13 benthique, qui est tout à fait typique d'un impact, d'une diminution en fait, de cette circulation profonde, circulation qui va alimenter la circulation thermohaline. Donc on a une preuve de la connexion entre les températures, pour cet événement d'il y a 8000 ans à peu près avant le présent, une connexion entre l'événement de refroidissement et un impact sur la circulation profonde qui se propage ensuite à l'échelle de la planète. Alors, il est utile de regarder ce que donnent les modèles. On peut forcer un modèle en le perturbant, un modèle qui représente le couple océan-atmosphère et les calottes. On peut de façon forcée, induire dans le calcul une débâcle équivalente à ce qui s'est passé pendant l'événement du 8.2 pour voir quel est l'impact en fait, de cette fonte localisée au niveau de l'Atlantique Nord sur la circulation thermohaline et par voie de conséquence sur les températures atmosphériques. Là, il s'agit d'une cartographie d'anomalies de température qui récapitule un peu les choses pour l'impact justement simulé de cet événement du 8.2 pour la Terre entière. Donc on voit qu'il y a un impact non seulement au niveau de l'Atlantique Nord, mais aussi sur pratiquement tout l'hémisphère nord, et un refroidissement tout à fait marqué au niveau de l'Atlantique Nord et des continents environnants. Mais on voit aussi qu'il y a un impact, alors au point de vue amplitude qui est beaucoup plus faible, mais aussi un impact inverse. Alors il y a un phénomène de bascule bipolaire, de compensation thermique, avec un effet tout à fait typique de refroidissement très marqué au nord, en particulier dans la zone de convection des masses d'eau de cette circulation thermohaline, et un réchauffement localisé dans l'hémisphère sud. Alors, il y a d'autres chercheurs. Ici, il s'agit d'un groupe de la NASA qui a réalisé ce travail publié en 2006. Il y a d'autres groupes qui se sont intéressés à ce type de modélisation, qui ont essayé de reproduire et qui ont effectivement confirmé la chose. Ici, il s'agit d'une vue qui représente les anomalies de température modélisées en simulant, en forçant le modèle avec une fonte correspondant à l'événement du 8.2. Dans cette zone arctique, et donc ensuite une conséquence globale sur la circulation océanique et sur les températures atmosphériques. Ici, il s'agit d'une compilation et d'une moyenne de 4 simulations de modèles couplés océan-atmosphère, mais qui globalement donnent le même message, c'est-à-dire un refroidissement important dans la zone nord et de façon beaucoup plus localisée et avec une amplitude plus faible, un réchauffement par bascule bipolaire. Donc une confirmation, en tout cas par modélisation, du mécanisme et de l'impact de cet événement du 8.2 sur le climat de la Terre. Alors il est important aussi pour l'instant je ne vous ai parlé que des impacts de cette fonte résiduelle et de certains événements singuliers pendant la retraite de la calotte Laurentide, qui était située sur le Canada, essentiellement, eh bien, il est intéressant aussi de considérer l'autre grande calotte de la dernière glaciation, la calotte fénoscandienne. Nous en avons parlé lors du précédent cours. Et il est aussi possible, en faisant de la géomorphologie, de reconstituer la retraite post-glaciaire de cette calotte fénoscandienne. En particulier, ici, vous avez un diagramme de principe qui vous montre qu'il y a différentes évidences géomorphologiques que l'on peut retrouver sur le terrain, des moraines frontales au sens strict, et puis d'autres figures moraniques, enfin de sédimentation liées aux glaciers en recul, qui ont des noms qui dépendent de la géométrie et du mode de formation, mais globalement, ce sont des figures de sédimentologie que l'on peut retrouver sur le terrain et que l'on peut cartographier et dater. C'est ce qui a été fait par les collègues scandinaves qui ont cartographié en Norvège, en Suède et en Finlande toutes ces évidences géomorphologiques qui sont représentées ici et qui les ont datées avec différentes techniques. Ici, vous avez un même diagramme qui représente les évidences géochronologiques, à la fois avec des datations classiques au radiocarbone avec les points en vert. Les points en rouge représentent une autre technique. J'en avais parlé brièvement la semaine dernière, où l'on peut... des techniques qui permettent en fait de calculer, de mesurer les durées d'exposition après retrait de la calotte glaciaire, durée d'exposition au rayonnement cosmique des roches mises à nu par la retraite glaciaire, eh bien, ces roches vont, avoir vont être exposées au rayonnement cosmique, et ce rayonnement cosmique va générer des isotopes que l'on appelle des isotopes cosmogéniques, que l'on va pouvoir mesurer. Il s'agit en particulier du beryllium-10, du chlore-36 ou même du C14, une autre contribution au carbone-14. Donc il est possible, à partir de ces données de géomorphologie et de géochronologie, de faire des reconstitutions au cours du temps de l'extension de la calotte de glace fennoscandienne. C'est ce qui est indiqué ici. Vous avez un diagramme qui représente, avec ici c'est exprimé en milliers d'années, donc on part de l'extension maximale pendant la glaciation, vers 21 000 ans avant le présent, et les représentations ici en jaune vous montrent en fait l'extension progressive au cours du temps à partir du début de l'Holocène. Il est intéressant, on peut avec ce type de représentation, donc il faut imaginer qu'elles sont basées en fait à la fois sur les aspects de géomorphologie et de géochronologie, il est possible aussi de faire un film, finalement, de reconstituer de façon imagée, progressive, la retraite post-glaciaire de la calotte fennoscandienne, comme je vous le montre ici, tirée d'un travail récent de compilation de ces différentes données. Donc on démarre le calcul, retraite post-glaciaire il y a 22 000 ans, avec une retraite progressive, 21 000 ans, 20 000 ans, et très rapidement, donc on va voir que cette calotte se réduit finalement à peau de chagrin au début de l'Holocène, ici le début de l'Holocène, et ensuite on va voir cette calotte résiduelle disparaître pratiquement il y a 10 000 ans. Donc le calcul se termine ici à pratiquement 10 000 ans, il n'y avait plus de calotte fennoscandienne à cette époque. Alors, de façon similaire à ce que nous avons vu pour la calotte de Laurentide résiduelle, eh bien, la calotte scandinave, elle avait créé par sa fonte, en fait, un lac proglaciaire qui était situé au sud de la calotte scandinave, qui occupait finalement le bassin de la Baltique. Donc, on parle de lac baltique, on parle plus de mer baltique, mais il faut avoir en tête justement que toute cette zone était occupée par un énorme lac proglaciaire, le lac baltique, et qu'il n'y avait pas de connexion entre la mer et le lac Baltique. Le lac Baltique était plus haut avant son drainage, avant sa reconnexion à l'océan Atlantique Nord. Le lac Baltique était 20 à 30 mètres plus haut que le niveau de la mer de l'époque. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de passage. Donc, tout ceci dépend en fait de la masse et de la fonte détaillée de cette calotte scandinave ou fénoscandienne si on la considère dans sa globalité, mais dépend aussi de la géométrie des passages et de la déformation de la Terre. Pour essayer de prévoir et comprendre les différents passages, on peut faire de la géomorphologie pour mettre en évidence, dater les différentes évidences géomorphologiques de passages ou non et de sédiments dans les deux bassins, mais pour essayer de comprendre quantitativement, il va falloir aussi tenir compte de la mise en forme et de ce rebond isostatique, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, je vous invite à regarder la dernière vidéo pour les détails à ce niveau-là. Donc, il y a des évidences qui sont résumées de façon simplifiée sur ces deux diagrammes de principe qui montrent en fait la situation il y a à peu près 14 000 ans et la situation juste pendant la reconnexion entre le lac Baltique et l'Atlantique, qui a eu lieu il y a à peu près 11 600 ans avant le présent. D'autres auteurs penchent pour une période un peu plus tardive, 11 300. Il y a des incertitudes géochronologiques qui sont inhérentes aux différents outils géochronologiques qui sont utilisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais encore une fois, un drainage du lac proglaciaire qui a été quasiment instantané, encore une fois, au niveau géologique, avec un passage possible à la faveur, justement, de cette ouverture, de cette fonte de la calotte, de ce retrait de la calotte fennoscandienne et de l'augmentation du niveau de la mer et de la déformation de toute cette région du monde. Donc un flux, alors le flux était beaucoup plus faible que le flux du lac Agassiz, parce que le lac Baltique était moins haut et la calotte fennoscandienne était moins importante que la calotte Laurentide, mais c'est quelque chose qui potentiellement, à 11 500 ans ou 11 300 ans, suivant certains auteurs, a pu aussi avoir un impact sur l'Atlantique Nord et sa convection profonde via cette circulation thermohaline. Lorsque l'on parle en fait du drainage de la calotte, de l'eau de fonte de la calotte fennoscandienne, il est aussi intéressant de considérer les drainages vers la partie est de cette calotte. Pendant la glaciation, en fait, ce qui est représenté sur cette carte, eh bien, c'est que l'extension était très, très importante, mais qu'il y avait aussi une fonte, et en particulier cette fonte, nous allons la revoir pendant la période post-glaciaire, pendant la période de l'Holocène, une fonte vers le sud, notamment au niveau de bassins versants, des bassins versants du Dniepr, et formation de façon similaire à ce que l'on a vu pour la calotte Laurentide, formation de lacs proglaciaires. Encore une fois, ce que je vous ai montré pour l'instant, c'était c'est situé au niveau de l'ouest de la calotte fennoscandienne, mais le même type de processus va aussi intervenir au sud-est de cette calotte, pendant le retrait post-glaciaire, notamment pendant la période holocène. Toute cette eau de fonte liée à la retraite progressive de la calotte fennoscandienne va finalement, pour cette partie est, va être drainée par des bassins versants vers le bassin de la mer Noire, qui est situé ici. Il y avait d'autres fontes, d'autres flux de fonte de glace, en particulier des glaces qui étaient situées dans les Alpes, qui ont été drainées via le bassin du Danube vers la mer Noire. Et ce qui est fondamental lorsque l'on considère justement cette fonte sud-est de la calotte fennoscandienne, c'est qu'à l'époque, pendant la glaciation, la mer Noire était totalement déconnectée de la mer Méditerranée. À l'heure actuelle, il y a une connexion, comme nous allons regarder un petit peu dans le détail, mais à cette époque, lorsque le niveau de la mer pendant la glaciation était à 120 mètres plus bas que l'actuel, eh bien, il n'y avait plus de connexion entre la mer Noire et la mer Méditerranée, et en fait, cette mer Noire était remplie finalement d'un lac à cause justement de ces apports permanents de l'évaporation et des apports permanents d'eau douce venant de tous les bassins versants, notamment les bassins versants qui étaient alimentés par cette eau de fonte qui était effectivement très importante pendant la période post-glaciaire. Alors, cette zone de contact et de passage et d'échange entre la mer Noire et la Méditerranée, il est important, si l'on veut comprendre en fait les choses et ce qui s'est passé pendant la période post-glaciaire au début de l'Holocène, il est important de regarder un petit peu en détail ces échanges pour la période actuelle. Ici, il s'agit, donc encore une fois, on retrouve cette carte, la mer Noire est ici, la Méditerranée est là, et les échanges entre la mer Noire et le bassin est-méditerranéen, la mer Égée, ici, est assez compliqué parce que ces échanges se font à travers un détroit avec un seuil, le seuil du Bosphore, à travers une mer intermédiaire, la mer de Marmara, le détroit des Dardanelles, avec des échanges entre une eau qui est relativement dessalée. La mer Noire est une eau presque saumâtre, enfin, avec une salinité qui est relativement faible, et une mer Méditerranée qui, elle, a une salinité qui est très importante. Alors, ce sont les petits diagrammes ici qui représentent, en fonction de la profondeur, pour les différentes zones géographiques, les différents points géographiques ici, les différentes salinités en fonction de la profondeur. Exprimé en pour mille ou en approximativement en grammes par litre de salinité, la mer Noire étant caractérisée par une salinité qui est de l'ordre de 18 grammes par litre, et alors que la mer Méditerranée est caractérisée par une salinité beaucoup plus importante, de l'ordre de 38 grammes par litre, donc pratiquement plus du double de la salinité de la mer Noire, qui est effectivement encore aujourd'hui alimentée aussi par tout un système de grands fleuves, de la Volga, le Dniepr, etc., le système du Danube, le Dniestre, etc. Donc un bilan hydrique qu'il faut évaluer pour l'actuel, c'est ce qui est fait sur ce diagramme, qui représente finalement les échanges entre la Méditerranée et la mer Noire de façon simplifiée et imagée sur un diagramme en coupe qui représente justement cette zone au niveau des Dardanelles, du seuil des Dardanelles, de la mer de Marmara, du détroit et du seuil du Bosphore vers 35 mètres en dessous, enfin, qui a une bathymétrie actuelle qui est de l'ordre de 35 mètres en dessous du niveau de la mer actuelle, et la mer Noire qui est située à droite de ce diagramme. Donc pour tous les chiffres qui sont résumés sur ce diagramme représentent en fait les échanges d'eau exprimés en kilomètres cubes par an. Les échanges entre la mer Noire actuelle et la mer Égée sont caractérisés par une circulation estuarienne, c'est-à-dire qu'il y a des masses d'eau de surface qui proviennent de la mer Noire et qui vont vers la Méditerranée. En surface, c'est la flèche verte qui est indiquée ici, exprimée ici avec des chiffres en kilomètres cubes par an, et un courant de retour en profondeur depuis la Méditerranée vers la mer Noire, avec des salinités qui sont beaucoup plus importantes. On retrouve ici les salinités de la mer Noire, 18 grammes par kilo, 1 gramme par litre à peu près, et une salinité de la mer méditerranéenne, enfin de l'eau méditerranéenne, qui est de l'ordre de 38 grammes par litre. Des échanges qui sont importants pour faire véritablement le bilan hydrique. Il faut aussi tenir compte des précipitations, de l'évaporation et du flux des rivières actuelles pour essentiellement boucler ce bilan hydrique qui est caractérisé, encore une fois, par un passage d'eau en surface de la mer Noire vers la Méditerranée et de la Méditerranée vers la mer Noire, avec une compensation entre les deux. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et pendant la glaciation, le niveau de la mer était à moins 120 mètres. Donc tous ces bassins étaient en fait fermés, étaient déconnectés de l'océan actuel et étaient occupés finalement par des lacs, par de l'eau douce qui provenait encore une fois, qui était liée au terme de flux des rivières, en particulier alimentés pendant la période post-glaciaire par cette fonte au sud-est de la calotte fénoscandienne. Alors, pour étudier ce phénomène, enfin, c'est quelque chose que nous avons aussi étudié dans le cadre du laboratoire, de mon laboratoire qui est à Aix-en-Provence, le CEREJ. Nous avons collaboré avec des chercheurs de l'IFREMER pour aller récupérer des sédiments marins en mer Noire comme archives paléoclimatiques. C'est essentiellement réalisé avec un bateau océanographique qui s'appelle le Marin Dufresne, avec en particulier la collecte de carottes à partir d'un carottier qui est représenté sur cette photo. Et grâce à ces différents carottages, il est possible d'étudier le sédiment et même de faire des mesures directement sur l'eau interstitielle, comme nous allons le voir, dans les sédiments marins actuels. Donc ici, juste à titre d'exemple, nous avons beaucoup plus d'enregistrements que cela, mais j'ai représenté sur cette carte de la mer Noire actuelle la position des deux carottes principales où nous avons pu étudier justement les eaux interstitielles, à la fois en mer Noire et en mer de Marmara. Je ne montrerai que le cadre de la mer Noire. Dans ces sédiments, dans ces carottes de sédiments qui font plusieurs dizaines de mètres de profondeur, de ces sédiments marins que l'on récupère et que l'on va étudier, il est possible de faire des mesures directement dans l'eau interstitielle. On fait des mesures aussi, bien évidemment, sur les sédiments pour voir la stratigraphie et comprendre les passages entre sédimentation lacustre et sédimentation marine et sédimentation intermédiaire. Mais il est aussi possible de faire des mesures directement dans l'eau interstitielle. Ici, vous avez deux diagrammes qui ont été réalisés donc, à Aix par des mesures en fonction de la profondeur dans le sédiment sur l'eau interstitielle de deux indicateurs qui nous servent justement pour reconstituer les bilans hydriques. D'une part, le rapport isotopique O18 sur O16, mais de façon plus imagée encore, la salinité. Il est possible de carrément mesurer la salinité dans cette eau interstitielle, exprimée ici en pour mille, de façon approximative en grammes par litre. On voit qu'en surface, au niveau de l'interface entre l'océan, entre la mer Noire, entre la masse d'eau et le sédiment de surface, on a effectivement une composition qui correspond à la salinité du bassin profond de mer Noire, ici de l'ordre de 22 pour 1000. Et par contre, en profondeur, à pratiquement 40 mètres de profondeur, on trouve de l'eau quasiment douce. Donc on retrouve finalement l'eau du lac de mer Noire qui existait pendant la glaciation, on la retrouve à des profondeurs de plus de 30 mètres, vers 40 mètres de profondeur. Donc ici, il s'agit des mesures et un profil qui a été extrapolé, qui est modélisé parce qu'encore une fois, les mesures qui ont été réalisées montrent un profil qui est lié à la diffusion. Et cette diffusion, encore une fois, elle est advection, elle n'a pas effacé le fait, il n'y a pas de profil d'équilibre, c'est-à-dire que les masses d'eau salées, relativement salées de la mer Noire actuelle, de l'ordre de 22 pour 1000, n'ont pas envahi complètement les eaux interstitielles de la colonne stratigraphique, de la colonne de sédiments. En tout cas, on retrouve de l'eau douce pratiquement à plus de 30 mètres de profondeur, et entre les deux, il y a, de façon très logique, un profil qui est lié à la diffusion et à l'advection. Encore une fois, ce qui empêche l'homogénéisation du profil, c'est essentiellement le fait qu'il y a une certaine tortuosité entre les grains de sédiments et que le trajet est finalement assez long, et donc explique le fait qu'encore aujourd'hui, eh bien, on trouve la trace de ce lac qui existait en mer Noire pendant la glaciation et pendant la période post-glaciaire jusqu'à une période que nous allons considérer au début de l'Holocène. Donc on retrouve ce profil de diffusion. Alors il est possible d'utiliser, d'aller plus loin dans les interprétations, c'est ce que nous avions fait dans le cadre de nos études, en tenant compte du fait que, contrairement à un signal climatique qui va être enregistré ou un signal stratigraphique et paléocénographique qui va pouvoir être enregistré dans le sédiment, ici c'est juste un diagramme imagé qui représente un enregistrement sédimentaire au cours du temps avec d'abord une sédimentation lacustre et suivie d'un environnement marin qui va pouvoir ensuite se préserver dans les sédiments, et cette colonne stratigraphique, elle augmente au cours du temps par dépôt des sédiments progressivement. Quand on fait des mesures et quand on considère l'enregistrement dans les eaux interstitielles, même s'il y a de façon abrupte, de façon très rapide, un remplacement de l'eau douce par de l'eau salée, qui, elle, est représentée ici dans ce diagramme par une couleur rouge, ensuite, il y aura une diffusion et advection, mélange, en fait, entre l'eau salée et l'eau douce dans les sédiments, dans les eaux interstitielles des sédiments. Et donc, ce que l'on va retrouver et mesurer une dizaine de milliers après, dans les laboratoires, ça va être un profil de diffusion que l'on va pouvoir étudier, et à l'aide de modèles mathématiques qui tiennent compte justement de ces processus d'advection et de zone diffusion, on va pouvoir remonter au profil que l'on aurait dû observer s'il n'y avait pas ces aspects de diffusion et d'advection des fluides dans les eaux interstitielles. Donc c'est quelque chose que, enfin, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut être étudié. Mais un des résultats, je dirais, au premier rang, qui est très impressionnant quand on y pense, c'est qu'il est effectivement possible de retrouver l'eau du lac de mer Noire directement en profondeur dans les eaux interstitielles. Donc nous avons, en particulier avec des collègues donc, du laboratoire et de l'IFREMER, réalisé ces études, essentiellement aussi en connexion avec une des théories qui a été proposée assez récemment, c'est pratiquement 20 ans, une théorie qui a été proposée par deux chercheurs américains, Bill Ryan et Walter Pittman, qui ont proposé le fait que l'ennoiement de la mer Noire à cause de cette remontée du niveau de la mer post-glaciaire a été, et de cette reconnexion du bassin de mer Noire avec la Méditerranée, a été quasiment instantanée en termes géologiques, avec une rupture finalement du seuil du Bosphore et un flux d'eau catastrophique, un déluge avec une hauteur d'eau pratiquement de l'ordre d'une centaine de mètres qui aurait été à l'origine, c'est ça qui est écrit dans le livre que Bill Ryan et Walter Pittman ont écrit en 2000, dont le titre est tout à fait éloquent, leur théorie, c'est que les évidences géologiques montrent que cet événement a été d'ennoiement. Donc là, il s'agit exactement du contraire. Pour l'instant, je vous ai montré le lac Agassiz qui se déversait, la vidange vers l'Atlantique, la vidange du lac Baltique vers l'Atlantique. Là, il s'agit du phénomène inverse, un ennoiement de la mer Noire par ou une inondation de la mer Noire venant de la Méditerranée à cause de cette remontée post-glaciaire. Et l'hypothèse qui a été proposée, puis encore une fois qui est documentée à la fois dans ce livre et dans des revues scientifiques, est que c'est ce qui expliquerait, au moins pour ses auteurs, les légendes du déluge que l'on voit dans différentes sociétés humaines du préhistorique ou proto-historique. Donc c'est quelque chose qui a des conséquences, donc la géologie a des conséquences apparemment importantes, et c'est quelque chose, encore une fois, qu'on peut étudier scientifiquement de façon un peu similaire à ce que nous avions considéré pour le passage, l'ouverture du détroit de Bering. On peut considérer justement l'évolution du niveau de la mer, notamment en regardant, en prenant une courbe, notamment cette courbe de remontée post-glaciaire à Tahiti, qui est probablement la mieux documentée sur toute cette transition, sur toute cette période depuis le maximum glaciaire jusqu'à l'actuel, en considérant notamment la position, la bathymétrie actuelle du Bosphore, je vous l'ai dit, vers moins 35 mètres. Nous l'avons vu sur le diagramme précédent où je vous ai présenté les échanges entre les différents bassins. Donc le seuil actuel du Bosphore est à moins 35 mètres. Donc lorsque l'on considère cette profondeur et que l'on considère l'évolution du niveau de la mer générale, enfin, vue à travers une courbe particulière, mais qui encore une fois est similaire, comme nous l'avons vu la semaine dernière, finalement, aux reconstitutions globales qui ont une certaine incertitude, eh bien, on prédit que cette reconnexion entre la mer Noire et la Méditerranée, avec un flux d'eau important, a eu lieu à peu près il y a 10 000 ans avant le présent. Ça, c'est vraiment, je dirais, le premier ordre, les considérations de premier ordre. Il est important d'aller plus loin, comme nous allons le voir dans ces estimations, notamment parce qu'il est possible aussi d'avoir des contraintes géochronologiques directement en étudiant les sédiments marins. Je vous l'ai dit, on peut faire des mesures pour vraiment montrer qu'il y avait effectivement un lac qui a été remplacé par de l'eau de mer venant de la Méditerranée. Donc on a l'évidence de cette eau douce en profondeur dans les eaux interstitielles. Mais pour vraiment reconstituer la chronologie fine, l'inversion par modélisation des profils de salinité en particulier, même si la salinité est probablement l'outil le plus parfait pour regarder justement cette reconnexion entre la mer Méditerranée et la mer Noire. Malheureusement, comme le profil de diffusion doit être inversé, il y a en fait des incertitudes sur les paramètres, notamment sur l'influence de l'advection, qui font que la chronologie est difficile à établir avec ces profils établis sur l'eau interstitielle, et en fait il est plus simple et aussi tout à fait complémentaire d'essayer de reconstituer cette chronologie de l'invasion de la mer Noire à partir de sédiments marins. Alors ici vous avez une compilation que nous avons publiée en 2011 qui représente différents points, différentes carottes qui ont été utilisées. Dans toutes ces carottes, il faut imaginer donc des sédiments qui ont été étudiés, en particulier il est possible de faire des mesures et au niveau du passage entre sédiments lacustres et sédiments marins, on peut voir une évolution très rapide, très franche, de certains éléments chimiques, par exemple le calcium. On voit aussi une évolution du rapport titane sur calcium de façon très nette. On peut faire des mesures dans certains organismes, des restes carbonatés d'ostracodes, faire des mesures de certains rapports élémentaires. Donc toutes ces informations nous permettent de documenter cette phase de transition, la première incursion marine à partir de l'unité lacustre, et de mettre en évidence une phase de transition dans le sédiment. Ici, il s'agit d'une colonne stratigraphique pour une carotte particulière en mètres. Donc on a un diagramme qui représente les différents changements qui sont très nets dans le sédiment pour aller vers une sédimentation marine franche. Donc on peut étudier dans ces différentes carottes. Et lorsqu'on fait la compilation, notamment en tenant compte des datations essentiellement au radiocarbone mesurées dans ces différents enregistrements, il est possible de tomber sur un âge inférieur à ce que je vous ai indiqué juste auparavant, avec juste des considérations bathymétriques sur le bassin et sur le seuil du Bosphore, on trouve un âge qui est beaucoup plus récent, qui est de l'ordre de 9000 ans, donc un millénaire plus récent que ce que j'avais indiqué uniquement en considérant la bathymétrie actuelle et une courbe de niveau de la mer qui est quasi globale. Alors, il y a d'autres indicateurs encore plus fins qui permettent en fait d'étudier de façon très pointue l'intrusion d'eau marine dans la mer Noire, ou au moins la première incursion, puisqu'il y a encore une fois une phase transitionnelle. Il s'agit notamment du rapport des isotopes du strontium, car il y a une différence très nette. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur les raisons de cette différence nette, mais il y a une différence très très nette entre la composition isotopique en strontium de l'eau de mer et la composition isotopique du strontium des rivières. C'est quelque chose qui est très bien étudié par les géologues et les géochimistes. Ici, vous avez un diagramme qui a été publié assez récemment en fonction du temps, 14 000 ans jusqu'à l'actuel, donc essentiellement pour toute la période de l'Holocène, du rapport isotopique du strontium mesuré dans des coquilles et qui permettent en fait des datations et de reconstituer un enregistrement des rapports du strontium dans ces sédiments en fonction du temps et en fonction, bien évidemment, de ces rapports isotopiques. Donc on voit une évolution très très franche à partir de 9500 ans avant le présent, très abrupte. On peut étudier certains détails, dépiler l'enregistrement, mais globalement, il s'agit d'enregistrements qui confirment ce que nous avions publié auparavant en 2011, une transition, une intrusion d'eau méditerranéenne précoce, un peu au-delà de 9000 ans, et un passage, je dirais, entre les deux environnements, lacustre et marin, vers 9000 ans avant le présent. Donc il est on peut retourner revoir les enregistrements comme nous le considérerons. Un autre paramètre dans ces considérations, dans cette étude de l'ennoiement de la mer Noire, est de savoir quel était le niveau du lac de la mer Noire juste avant cette reconnexion. Donc, encore une fois, je vous ai dit que l'hypothèse qui avait été proposée, qui est fondée sur certaines évidences géologiques en 2000 par Ryan et Pittman, était, et encore une fois, avec ses conséquences humaines sur les légendes du déluge, c'était que la hauteur d'eau de ces chutes d'eau au niveau du Bosphore aurait été de carrément une centaine de mètres, parce que le niveau du lac, selon ses auteurs, était très bas, 100 mètres par rapport à l'actuel, moins 100 mètres par rapport à l'actuel. En fait, il y a eu des données beaucoup plus récentes qui ont été étudiées dans plusieurs zones de mer Noire, notamment au niveau du delta du Danube en Roumanie. Ici, vous avez une carte en fait, d'un détail qui montre en fait, le delta du Danube où ses collègues ont réalisé plusieurs carottages et ont pu étudier, réaliser une coupe stratigraphique de tout ce delta du Danube et de matérialiser le passage entre la sédimentation lacustre et la sédimentation marine, enfin la sédimentation de mer Noire actuelle, et de la cartographier et de la dater précisément et globalement et d'indiquer sa bathymétrie. Donc globalement, le message est qu'il y a des évidences qui nous indiquent que le lac de mer Noire était pratiquement à moins 30 mètres avant la reconnexion, donc il n'était pas à moins 100 mètres, voire plus, comme les hypothèses qui avaient été proposées au départ. Donc une bathymétrie avant la reconnexion qui était de l'ordre de moins 30 mètres. Donc en prenant en compte toutes ces informations, à la fois géochronologiques, de bathymétrie et de position des différents points, il est intéressant de reconsidérer les choses avec toujours cette courbe de Tahiti qui nous sert de support, mais encore une fois, on va voir que les choses sont nettement plus compliquées. Mais on peut encore une fois représenter le seuil actuel du Bosphore à moins 35 mètres. On a vu que ça nous donnait une reconnexion vers 10 000 ans. En fait, la reconnexion, elle est à 9 000 ans, donc on voit qu'en fait, le seuil du Bosphore avant la reconnexion était en fait plus haut que le seuil du Bosphore actuel. Donc en fait, il y a eu, c'est ça aussi une des hypothèses de Ryan et Pittman, c'est qu'il y a des évidences en fait pour qu'il y ait eu une érosion très rapide d'un seuil du Bosphore qui était plus élevé que le seuil actuel. donc plusieurs, ici plusieurs dizaines de mètres au-dessus du seuil actuel, et donc une érosion très rapide de ce seuil du Bosphore à l'époque, vers 9000 ans avant le présent. Ce que j'ai représenté ici en gris, eh bien, c'est le niveau du lac de mer Noire avant cette reconnexion. Donc on voit que à la période de reconnexion, en tout cas si on utilise ce diagramme simple amplifié, on voit qu'il y avait effectivement une hauteur d'eau qui n'était pas négligeable, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu reconnexion, eh bien, le niveau de la mer était au-dessus du niveau du lac de mer Noire, mais encore une fois, la hauteur d'eau ici est bien inférieure aux 100 mètres qui étaient proposés au départ. Donc on a un dénivelé ici qui est de l'ordre d'une dizaine de mètres, donc bien inférieur, ou de quelques mètres, bien inférieur avec ce qui était proposé pour expliquer toutes les théories du déluge. Donc donc à la fois une confirmation qualitative du fait que le seuil du Bosphore était situé plus haut que le seuil actuel, du fait qu'il y a eu effectivement des versements depuis la Méditerranée vers la mer Noire, mais encore une fois, quantitativement, les choses sont assez différentes des premières propositions. Les choses sont finalement aussi compliquées que dans les autres zones géographiques que je vous ai présentées, et il faut aussi tenir compte de la remise en forme de la Terre, et à la fois globalement et localement. Et c'est ce qui a été fait effectivement par des modélisateurs, des géophysiciens qui ont, au même titre qu'ils l'ont fait pour le détroit de Bering, eh bien, on refait le même type de calcul pour ce passage entre la Méditerranée et la mer Noire. Donc au premier ordre, si le niveau du lac de mer Noire était équivalent avec le niveau de la Méditerranée, eh bien cette Méditerranée est montante à cause du niveau de la mer globale, s'est reconnectée avec le lac mer Noire, il n'y aurait pas eu d'effet géophysique différentiel, il n'y aurait eu que des échanges, des transports de masses d'eau entre des masses d'eau dessalées, enfin même douce au niveau du lac de mer Noire, et de l'eau salée venant de Méditerranée. Mais dans ce cas-là, un défait géophysique qui aurait été négligeable s'il n'y avait pas d'inondation avec une hauteur d'eau importante. Par contre, dès que le calcul tient compte en fait d'une hauteur d'eau importante, eh bien, l'inondation, qui peut être de 100 mètres, on peut faire toutes les hypothèses que l'on veut avec ce type de calcul géophysique, dès que l'inondation procure une hauteur d'eau très importante, eh bien, il faut tenir compte du fait que cette hauteur d'eau que l'on va apporter de façon instantanée au bassin lacustre de mer Noire va avoir un effet géophysique, littéralement, ça va pousser le fond de la mer Noire, ce qui augmente en fait au niveau du détroit du Bosphore et pratiquement partout en mer Noire, l'élévation apparente du niveau de la mer. Alors ici, il s'agit d'un calcul tiré de cette étude précise justement sur ce phénomène d'inondation de la mer Noire, un calcul de l'effet géophysique lié justement à ce réajustement isostatique lié au fait qu'on met une colonne d'eau importante. Ici, il s'agit d'un calcul qui a été effectué pour une colonne d'eau de 100 mètres. Et donc, on voit que ça a tendance à augmenter de plus de 10 mètres l'élévation apparente dans cette zone, et avec des effets qui vont jusqu'en mer de Marmara. Donc, il faut tenir compte de ce type d'effets pour véritablement, quantitativement, essayer de comprendre les choses. Alors, c'est ce qui a été fait dans cette étude, qui tient compte pleinement mais avec certaines hypothèses, de la complication qui est liée à la déformation des bassins par cette masse d'eau qui est venue envahir de façon quasi instantanée la mer Noire il y a à peu près 9000 ans. Donc avec le modèle géophysique, il est possible de faire plusieurs hypothèses. Les différentes courbes qui sont représentées ici représentent le niveau de la mer apparent localement au niveau du détroit du Bosphore, en fonction du temps, pour différentes hypothèses, soit une reconnexion sans différence de niveau entre le niveau du lac et le niveau de la Méditerranée, soit avec une inondation de l'ordre de 30 mètres, 60 mètres, voire 100 mètres qui était proposée au départ. Donc on retrouve le fait qu'avec les différents calculs, on n'observerait pas la même remontée du niveau de la mer au niveau du Bosphore. Pour ces différents calculs, on est beaucoup plus profond si l'on fait la supposition d'une inondation importante. Et tout calcul fait, je dirais que les données sont compatibles, à la fois géochronologiques, 9000 ans avant le présent. Le niveau du lac de mer Noire est toujours situé à moins 30 mètres ici, de façon simplifiée. Le seuil actuel est ici. Le calcul montre qu'en fait, les données sont compatibles avec une tranche d'eau qui est de l'ordre de 20 mètres. C'est-à-dire qu'on prévoit, avec ce type de calcul, qu'il y a eu effectivement une reconnexion qui a eu lieu il y a 9000 ans avec une hauteur d'eau de l'ordre d'une vingtaine de mètres pour un calcul qui n'est pas réalisé ici. Il faudrait remettre une courbe qui corresponde à 20 mètres, mais globalement, elle est située entre cette figure en violet, no flood, et l'estimation pour 30 mètres, à peu près à mi-chemin entre les deux, ça représente une colonne d'eau de l'ordre de 15-20 mètres qui s'est déversée depuis la Méditerranée jusqu'au lac de mer Noire. Donc en tenant compte de ces effets géophysiques, on peut calculer, estimer, mais encore une fois, avec beaucoup d'hypothèses, à la fois sur la géochronologie et sur la position du lac de mer Noire à l'époque, juste avant la reconnexion. Enfin, une des constantes et un des résultats qui est robuste dans ces calculs, c'est le fait que le seuil du Bosphore, juste avant la reconnexion, était bien plus haut que le seuil actuel, donc il y a eu une hauteur d'eau importante, mais qui n'est pas de l'ordre de 100 mètres, comme l'avait prévu ou l'avait proposé au départ les auteurs de cette théorie, nouvelle théorie sur l'explication des légendes du déluge. Voilà, donc des complications qui sont importantes et qui ont des répercussions à la fois aussi sur les légendes dans les différentes religions et mythologie des différents peuples, et en même temps un impact, c'est ça aussi qui était proposé dans le livre et dans la thèse de Ryan et Pittman, c'est que ça a eu un impact important sur les populations qui étaient installées tout autour du lac Mer Noire, juste avant la reconnexion, il y a à peu près 9000 ans. Bon, à l'époque, ils avaient estimé une reconnexion un peu plus tardive, mais c'est ce qui a conduit beaucoup de recherches sur l'existence de sites archéologiques qui auraient été engloutis à cause de cet ennoiement, de cette inondation catastrophique de la mer Noire au début de l'Holocène, qui aurait impacté des populations néolithiques installées tout autour de ce lac de mer Noire, et qui vivaient paisiblement jusqu'à cet événement catastrophique d'érosion quasiment instantanée en termes géologiques du seuil du Bosphore, érosion et inondation importante il y a à peu près 9000 ans avant le présent. Donc ici, j'ai juste repris quelques photos tirées de références bibliographiques de ces recherches de sites archéologiques avec des sous-marins automatisés ou carrément de la plongée sous-marine simple, de recherche de sites engloutis. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées en mer Noire, en particulier des épaves byzantines ou romaines ou de différentes époques, mais jusqu'à des objets datant de l'âge du bronze. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de découverte d'habitat du néolithique ancien, ce qui serait attendu si effectivement il y avait eu un impact de cette inondation d'il y a 9000 ans sur ces populations. Voilà, donc un peu un contrepoint. Ici, il s'agit d'un passage de la mer globale via la Méditerranée vers un bassin régional qui est un peu similaire, mais étudié en contrepoint des autres lacs proglaciaires qui, eux, ont envahi l'océan mondial. Je vais terminer cette séance en vous laissant quelques conclusions justement sur ces conséquences singulières de la retraite des calottes de glace à l'Holocène. Donc on a vu qu'on pouvait étudier le phénomène à l'échelle globale pour estimer et reconstituer les changements mondiaux de ce niveau de la mer qui sont de l'ordre de 50 à 60 mètres quand on fait les moyennes et qu'on tient compte de la géophysique. Mais on a vu aussi dans ce cours que à cause des particularités de la topographie côtière et de la proximité ou non des calottes de glace, on a des phénomènes tout à fait particuliers qui vont pouvoir intervenir de façon instantanée, enfin, ou au moins sur des échelles de temps très très courtes. Il y a eu en particulier des décharges d'eau douce provenant des continents, provenant de ces calottes de glace résiduelles, Laurentides, Fennoscandiennes, etc. Et des effets locaux complexes qui sont liés à la topographie, à la retraite des glaciers et à ce fameux réajustement glacio-hydro-isostatique post-glaciaire que nous avions vu dans la séance précédente. Et donc ici, quelques exemples, l'ouverture du détroit de Bering, le drainage du lac Agassiz en Amérique du Nord, le drainage du lac Baltique en Europe du Nord et un exemple particulier d'ennoiement d'une mer, d'inondation d'un bassin continental qui était lacustre à l'époque, la submersion de la mer Noire. Avec beaucoup, encore une fois, pour toutes ces estimations, quelques incertitudes encore qui continuent, des incertitudes à la fois sur les aspects de géochronologie et de bathymétrie, donc encore beaucoup de recherches encore pour préciser tous ces événements. Donc nous verrons que ces événements singuliers, on l'a vu dès aujourd'hui, ont eu des répercussions aussi sur le climat global. On a vu que l'ouverture ou la fermeture du détroit de Bering a pu avoir un impact sur la climatologie à l'échelle globale. On a vu que c'était le cas aussi pour cette débâcle de la calotte résiduelle et de la vidange du lac Agassiz et des autres termes, donc des impacts climatiques à l'échelle mondiale. Et on a vu un exemple d'un impact sur probable et encore une fois à étudier sur les populations humaines. Nous y reviendrons dans les prochains cours. Je vous remercie de votre attention.